Ils se mirent en route, le grand tenant le petit par la main, et l'homme souriait de nouveau, car il n'était pas fâché de voir cette Blanchotte, qui était, comptait-on, une des plus belles filles du pays. Et il se disait peut-être, au fond de sa pensée, qu'une jeunesse qui avait failli pouvait bien faillir encore. Ils arrivèrent devant une petite maison blanche très propre. « C'est là !» dit l'enfant, et il cria « Maman !» Une femme se montra, et l'ouvrier cessa brusquement de sourire, car il comprit tout de suite qu'on ne badinait plus avec cette grande fille pâle qui restait sévère sur sa porte, comme pour défendre à un homme le seuil de cette maison où elle avait déjà été trahie par un autre. Intimidé et sa casquette à la main, il balbutia. « Tenez, madame, je vous ramène votre petit garçon qui s'était perdu près de la rivière. » Mais Simon sauta au cou de sa mère et lui dit en se remettant à pleurer. « Non, maman, j'ai voulu me noyer parce que les autres m'ont battu. Ils m'ont battu parce que je n'ai pas de papa. » Une rougeur cuisante couvrit les joues de la jeune femme et meurtrie jusqu'au fond de sa chair. Elle embrassa son enfant avec violence, pendant que des larmes rapides lui coulaient sur la figure. L'homme ému restait là, ne sachant comment partir. Mais Simon, soudain, courut vers lui et lui dit « Voulez-vous être mon papa ?» Un grand silence se fit. La Blanchotte, muette et torturée de honte, s'appuyait contre le mur, les deux mains sur son cœur. L'enfant, voyant qu'on ne lui répondait point, reprit. « Si vous ne voulez pas, eh bien je retournerai me noyer. » L'ouvrier prit la chose en plaisanterie et répondit en riant. « Mais oui, moi je veux bien. »« Comment est-ce que tu t'appelles ?» demanda alors l'enfant. « Pour que je réponde aux autres quand ils voudront savoir ton nom. » « Philippe, » répondit l'homme. Simon se tut une seconde pour bien faire entrer ce nom-là dans sa tête. Puis il tendit les bras, tout consolé, en disant « Eh bien, Philippe, tu es mon papa !» L'ouvrier, l'enlevant de terre, l'embrassa brusquement sur les deux joues, puis il s'enfuit très vite à grandes enjambées. Quand l'enfant entra dans l'école le lendemain, un rire méchant l'accueillit. Et à la sortie, lorsque le gars voulut recommencer, Simon lui jeta ces mots à la tête comme il aurait fait d'une pierre. « Il s'appelle Philippe, mon papa !» Des hurlements de joie jaillirent de tous les côtés. « Philippe qui ? Philippe qui ? Qu'est-ce que c'est que ça, Philippe ? Où l'as-tu pris, ton Philippe ?» Simon ne répondit rien. Et, inébranlable dans sa foi, il les défiait de l'œil, prêt à se laisser martyriser, plutôt que de fuir devant eux. Le maître d'école le délivra, et il retourna chez sa mère. Pendant 3 mois, le grand ouvrier Philippe passa souvent auprès de la maison de la Blanchotte, et quelquefois il s'enhardissait à lui parler lorsqu'il la voyait cousant auprès de sa fenêtre. Elle lui répondait poliment, toujours grave, sans rire jamais avec lui, et sans le laisser entrer chez elle. Cependant, un peu fat comme tous les hommes, il s'imagina qu'elle était toujours plus rouge que de coutume lorsqu'elle causait avec lui. Mais une réputation tombée est si pénible à refaire, et demeure toujours si fragile, que malgré la réserve ombrageuse de la Blanchotte, on jasait déjà dans le pays. Quant à Simon, il aimait beaucoup son nouveau papa et se promenait avec lui presque tous les soirs, la journée finie. Il allait assidûment à l'école et passait au milieu de ses camarades, fort dignes, sans leur répondre jamais. Un jour pourtant, le gars qui l'avait attaqué le premier lui dit « Tu as menti, tu n'as pas un papa qui s'appelle Philippe. » « Pourquoi ça ? » demanda Simon très ému. Le gars se frottait les mains et il reprit. « Parce que si tu en avais un, il serait le mari de ta maman. » Simon se troubla devant la justesse de ce raisonnement, et néanmoins il répondit. « C'est mon papa tout de même.
Ça se peut bien, dit le gars en ricanant. Mais ce n'est pas ton papa tout à fait.
Le petit à la Blanchotte courba la tête et s'en alla rêveur du côté de la forge au Père Loison où travaillait Philippe. Cette forge était comme ensevelie sous les arbres. Il y faisait très sombre. Seule la lueur rouge d'un foyer formidable éclairait par grands reflets cinq forgerons aux bras nus qui frappaient sur leurs enclumes avec un terrible fracas. Ils se tenaient debout, enflammés comme des démons, les yeux fixés sur le fer ardent qu'ils torturaient. Et leurs lourdes pensées montaient et retombaient avec leurs marteaux. Simon entra sans être vu et alla tout doucement tirer son ami par la manche. Celui-ci se retourna. Soudain, le travail s'interrompit et tous les hommes regardèrent très attentifs. Alors, au milieu de ce silence inaccoutumé, monta la petite voix frêle de Simon.
« Dis donc, Philippe, le gars à la michaude qui m'a conté tout à l'heure que tu n'étais pas mon papa tout à fait. »«
Ah, et pourquoi ça ?» demanda l'ouvrier.
L'enfant répondit avec toute sa naïveté.
Bah, « Parce que tu n'es pas le mari de maman. »
Personne ne rit. Philippe resta debout, appuyant son front sur le dos de ses deux grosses mains que supportait le manche de son marteau dressé sur l'enclume. Il rêvait. Ses quatre compagnons le regardaient, et tout petit entre ces géants, Simon, anxieux, attendait. Tout à coup, un des forgerons, répondant à la pensée de tous, dit à Philippe.
« C'est tout de même une bonne et brave fille que la Blanchotte, et vaillante, et rangée malgré son malheur, et qui serait une digne femme pour un honnête homme. »«
Ah, ça c'est vrai, dirent les trois autres. »
L'ouvrier continua.
Est-ce sa faute à cette fille si elle a failli? On lui avait promis mariage, et j'en connais plus d'une qu'on respecte bien aujourd'hui et qui en a fait tout autant.
Ah, ça c'est vrai, répondirent en chœur les trois hommes.
Il reprit.
Ah, ce qu'elle a peiné, la pauvre, pour élever son gars toute seule. Et ce qu'elle a pleuré depuis qu'elle ne sort plus que pour aller à l'église. Ah, il n'y a bien que le bon Dieu qui le sait.
Oh, c'est encore vrai, dirent les autres.
Alors, on n'entendit plus que le soufflet qui activait le feu du foyer. Philippe brusquement se pencha vers Simon.
« Va dire à ta maman que j'irai lui parler ce soir. »
Puis il poussa l'enfant dehors par les épaules. Il revint à son travail, et d'un seul coup, les cinq marteaux retombèrent ensemble sur les enclumes. Ils battirent ainsi le fer jusqu'à la nuit, forts, puissants, joyeux comme des marteaux satisfaits. Mais de même que le bourdon d'une cathédrale résonne dans les jours de fête au-dessus du tintement des autres cloches, ainsi le marteau de Philippe, dominant le fracas des autres, s'abattait de seconde en seconde avec un vacarme assourdissant. Et lui, l'œil allumé, forgeait passionnément, debout dans les étincelles. Le ciel était plein d'étoiles quand il vint frapper à la porte de la Blanchotte. Il avait sa blouse des dimanches, une chemise fraîche et la barbe faite. La jeune femme se montra sur le seuil et lui dit d'un air peiné.
« C'est mal de venir ainsi la nuit tombée, monsieur Philippe. »
Il voulut répondre, balbutia, et resta confus devant elle. Elle reprit.
« Vous comprenez bien pourtant qu'il ne faut plus que l'on parle de moi. »
Alors, lui, tout à coup.
« Qu'est-ce que ça fait, dit-il, si vous voulez être ma femme ?»
Aucune voix ne lui répondit, mais il crut entendre, dans l'ombre de la chambre, le bruit d'un corps qui s'affaissait. Il entra bien vite. Et Simon, qui était couché dans son lit, distingua le son d'un baiser et quelques mots que sa mère murmurait bien bas. Puis, tout à coup, il se sentit enlevé dans les mains de son ami, et celui-ci, le tenant au bout de ses bras d'Hercule, lui cria.
« Tu leur diras à tes camarades que ton papa, eh bien c'est Philippe Rémy le forgeron, et qu'il ira tirer les oreilles de tous ceux qui te feront du mal. »
Le lendemain, comme l'école était pleine et que la classe allait commencer, le petit Simon se leva, tout pâle, et les lèvres tremblantes.
« Mon papa, dit-il d'une voix claire, c'est Philippe Rémy le forgeron, et il a promis qu'il tirerait les oreilles à tous ceux qui me feraient du mal.
Cette fois, personne ne rit plus, car on le connaissait bien, ce Philippe Rémy le forgeron.
Et c'était un papa, celui-là, dont tout le monde eût été fier. »